VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 23 septembre 2022. En direct de Washington, Idrissa Sibudia. Pour commencer les titres, le secrétaire d'État américain Antony Blinken demande que le président russe Vladimir Poutine rende des comptes lors d'une session du Conseil de sécurité sur les abus commis en Ukraine. Réunis en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, les dirigeants de la CEDEAO décident de sanctions dites progressives contre la junte en Guinée. En RDC, manifestation contre l'occupation du M23, un mort et deux blessés. En Ouganda, de nouveaux cas d'Ebola signalés par l'OMS. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Réunis en sommet extraordinaire hier à New York, les dirigeants des États ouest-africains ont annoncé des sanctions progressives contre la junte militaire en Guinée face à l'inflexibilité des militaires sur une date de retour des civils au pouvoir, Claire Morin-Gibourg.
C'est en marge de l'Assemblée générale de l'ONU que les leaders des pays de la CEDEAO se sont enfermés plusieurs heures à huis clos dans un hôtel new-yorkais. « Nous avons décidé de prendre des sanctions contre la Guinée », a annoncé le président de la commission de la CEDEAO, Omar Aliou Touré, à l'issue du sommet. Selon un document résumant cette réunion de chefs d'État consultés par l'AFP, il a été arrêté la prise de sanctions progressives sur des individus et contre la junte guinéenne. Selon ce texte, le président en exercice de la CEDEAO et le président de la commission de la CEDEAO vont établir très rapidement une liste de personnes à sanctionner et, de manière graduelle, appliquer ces sanctions. Ce sommet avait été précédé par des invectives de la junte à Conakry. Elle a dénigré avec virulence un sommet très loin de l'Afrique et a critiqué le président en exercice de la CEDEAO, le Bissau-Guinéen Oumaro Sissoko Embalo, le traitant de guignol.
Quatrième journée de la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, ce vendredi au siège de l'ONU, la Guinée devait prendre la parole jeudi soir, mais elle a dû se raviser en raison de la réunion extraordinaire de la CEDEAO. Et en amont de la même rencontre, le président de la Guinée-Bissau s'est exprimé à la tribune de l'ONU. Revenons sur son discours avec Dili Diko, notre correspondante à New York.
Bernard Gomou, premier ministre de la Guinée, n'a pas prononcé son discours à l'ONU jeudi soir, comme prévu dans le programme officiel de l'Assemblée générale des Nations unies. Une réunion extraordinaire de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest sur la situation politique dans son pays a requis son attention. Avant cette rencontre, en marge de l'Assemblée générale, le président de la Guinée-Bissau, Oumaro Sissoko Embalo, également président en exercice de la CEDEAO, a donné le ton dans son discours à la tribune de l'ONU. Il a fait savoir que la priorité de la région est le retour à la stabilité.
Permettez-moi, en ma qualité de président de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de rappeler que notre sous-région fait face à des défis sécuritaires majeurs et que nous avons besoin de la paix pour garantir le développement et le bien-être de nos populations qui sont notre première richesse.
Le président Embalo a dit privilégier le dialogue en faveur de la résolution des différents dossiers auxquels s'attelle la CEDEAO. L'absence de transition en Guinée et le bras de fer entre Bamako et Abidjan sur le sort des soldats ivoiriens détenus au Mali. À la fin de son court discours, il a mis en avant la concertation et l'action commune.
Et pour conclure, quiero enfatizar.
En conclusion, je tiens à souligner que la Guinée-Bissau, bien qu'elle soit un petit pays aux ressources limitées, ne ménagera pas ses efforts pour contribuer au maintien de la paix, de la stabilité ainsi qu'à la protection de notre planète. Nous sommes déterminés à continuer de participer activement à la consolidation du multilatéralisme et à la promotion du dialogue et de la coopération entre les pays et les peuples du monde.
Ce vendredi matin, le programme de l'Assemblée générale des Nations unies annonce le discours du président burkinabé de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. En fin de journée, les représentants du Togo, de la Guinée équatoriale et du Tchad prendront la parole. Dili Diko, VOA Afrique, New York.
Toujours à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu une réunion des ministres des Affaires étrangères convoquée par la présidence française du Conseil. Elle portait sur la situation en Ukraine et l'impunité des crimes commis depuis l'invasion du pays par la Russie en février dernier. Moscou a commencé hier la mobilisation obligatoire de ses troupes pour soutenir son effort de guerre en Ukraine et quatre régions contrôlées par les forces russes doivent se prononcer à partir d'aujourd'hui sur leur rattachement à la Russie lors de référendums qualifiés par Kiev d'accaparement illégal de ses terres. Le point avec Eric Manirakidza.
L'armée russe a déclaré hier qu'au moins 10 000 personnes se sont portées volontaires pour combattre dans les 24 heures qui ont suivi l'ordre de rappeler quelques 300 000 réservistes. Dans le même temps, des hommes se sont également empressés de quitter la Russie pour éviter d'être contraints de se battre en Ukraine. Les vols au départ de la Russie vers les pays voisins sont presque tous réservés, les prix ont grimpé en flèche, ce qui indique un exode des Russes qui veulent éviter de partir en guerre. Les responsables installés par le Kremlin dans les quatre régions ukrainiennes contrôlées par les forces de Moscou ont juré hier de poursuivre les scrutins d'annexion cette semaine. Ils organisent les votes sur 5 jours à partir de ce vendredi. Les dirigeants occidentaux réunis à New York cette semaine ont unanimement condamné le scrutin. Les référendums rappellent un scrutin similaire en 2014 qui a vu la péninsule de Crimée en Ukraine annexée par la Russie. Hier, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a demandé à M. Poutine de rendre des comptes à la Russie lors d'une session du Conseil de sécurité qui a répertorié les abus commis en Ukraine.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En RDC, selon des sources hospitalières et de la société civile, une personne a été tuée et 2 autres blessées jeudi dans l'est du pays lors d'une manifestation organisée pour réclamer la libération des zones occupées par les rebelles du M23. Selon Justin Bin Serouchago, rapporteur de la société civile du territoire de Rutshuru, la police a tiré sur les manifestants. Cette manifestation à Rutshuru Centre, dans le Nord Kivu, avait lieu à l'appel de la société civile pour protester contre l'inaction de l'armée face au M23 qui occupe notamment depuis 100 jours une localité stratégique à la frontière ougandaise, Bunagana. Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23, ce que Kigali dément. En Ouganda, de nouveaux cas d'Ebola ont été recensés selon l'OMS 2 jours après que Kampala a annoncé le premier décès de cette maladie depuis 3 ans. Le point avec Rosine Mounezero.
43 contacts ont été identifiés et 10 personnes soupçonnées d'avoir contracté le virus reçoivent un traitement à l'hôpital régional de Mubende, selon l'organisation onusienne. Pour l'instant, un décès a été recensé dans ce même district, dans le centre du pays, à quelques 150 km à l'ouest de Kampala. Nos experts sont déjà sur le terrain pour travailler avec les équipes ougandaises expérimentées de lutte contre Ebola, a déclaré Abdou Salam Gueye, directeur régional des urgences au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. L'Ouganda a déjà connu des épidémies d'Ebola, dont celle de 2000, où 200 personnes avaient trouvé la mort. La maladie à virus Ebola est souvent mortelle, mais des vaccins et traitements existent contre cette fièvre hémorragique qui se transmet à l'homme par des animaux.
Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a affirmé hier que la fin de la pandémie de COVID-19 était certes en vue, mais encore loin, modérant ainsi ses propos tenus la semaine dernière. Les autorités en Iran ont bloqué l'accès à Instagram et à WhatsApp après 6 jours de protestation après la mort d'une jeune femme arrêtée par la police des mœurs pour port de vêtements inappropriés, Michel Joseph.
Au moins 17 personnes ont péri dans ces manifestations, selon un média d'État jeudi. L'ONG d'opposition Iran Human Rights, basée à Oslo, fait état d'au moins 31 civils tués par les forces de sécurité. Le décès de l'Iranienne Mahsa Amini, 22 ans, a suscité de vives condamnations dans le monde alors que des ONG internationales ont dénoncé une répression brutale de manifestations. Ici à Washington, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a annoncé jeudi des sanctions économiques visant la police des mœurs iraniennes et plusieurs responsables de la sécurité pour les violences contre les manifestants, ainsi que pour le sort de Mahsa Amini.
Les Bermudes se préparaient jeudi au passage du puissant ouragan de catégorie 4 Fiona qui a semé la destruction dans les Caraïbes. Elle se dirige, cette tempête, vers le nord et doit aussi affecter la côte nord du Canada. Fiona a provoqué la mort de 4 personnes à Porto Rico et un décès a été rapporté en Guadeloupe et 2 en République dominicaine. La Minute Éco, Nathalie Barre.
Firefinch a annoncé que la production moyenne de la mine d'or Morila au Mali devrait s'élever à 30 000 onces sur les 4 prochains trimestres pour une production totale de 189 000 onces entre octobre 2022 et mars 2024. L'entreprise australienne a racheté cette mine en 2020 et négocié une convention avec l'État malien valable jusqu'en mai 2025. La Banque centrale d'Afrique du Sud a relevé son taux directeur de 75 points de base à 6,25%. Il avait déjà connu en juillet sa plus forte augmentation en 10 ans à 5,5%. Cette annonce survient après les décisions de plusieurs banques centrales, dont celle des États-Unis, de relever leur principal taux directeur. La Banque centrale sud-africaine a revu ses estimations de croissance à la baisse, tablant sur un ralentissement à 1,3% pour 2023. Butterfly Network, spécialisé dans l'échographie corporelle portable et la médecine connectée, a annoncé la distribution de 500 de ses appareils IQ Plus au Kenya. Ce déploiement est soutenu par une subvention de 5 millions de dollars de la fondation Bill et Melinda Gates. Il s'agit de fournir à 1 000 000 de sages-femmes d'Afrique subsaharienne une sonde échographique qui permet d'améliorer les soins de santé maternelle.
Merci Nathalie. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Opération relance pour le Mali au Mondial féminin de basket.
Oui, après s'être incliné lors de son premier match 56-89 devant le Japon, le Mali veut se relancer face à l'Australie. Hier, la France a battu l'Australie justement 70-57 et la Chine a surclassé la Corée du Sud 107-44. Les Américaines, triple tenante du titre, ont dominé la Belgique 87-72 pour leur entrée en lice dans ce mondial. Dans ce groupe A, les États-Unis affrontent ce vendredi Porto Rico, large vainqueur de la Bosnie-Herzégovine 82-58. La Belgique sera opposée à la Corée du Sud.
Basketball toujours, l'entraîneur des Boston Celtics, finaliste de la NBA la saison dernière, Ime Udoka, a été banni de la NBA pour la saison.
Selon ESPN et The Athletic, citant des sources anonymes, Ime Udoka aurait entretenu une relation avec un membre féminin du staff des Celtics, enfreignant le règlement et le code de conduite de la franchise. Avec l'ouverture prochaine des camps d'entraînement, la sanction signifie probablement que l'entraîneur adjoint des Celtics, Joe Mazzulla, assurera l'intérim pour la campagne 2022-2023. Udoka a succédé à Brad Stevens, promu président des opérations basket l'année dernière, en remplacement de l'emblématique Danny Ainge.
Tennis, Roger Federer va terminer sa carrière sur un match avec Nadal.
Le Suisse va disputer l'ultime match de sa carrière ce vendredi avec Rafael Nadal, non pas un adversaire mais un équipier de double lors de la première journée de la Laver Cup. Les deux grands rivaux de ces 15 dernières années seront côte à côte pour représenter l'équipe Europe face à la paire américaine composée de Jack Sock et Francis Tiafoe, qui représenteront l'équipe monde, âgé de 41 ans, Roger Federer, vainqueur de 20 titres en Grand Chelem, jouera en soirée à Londres son dernier match avant de mettre un terme à l'une des plus prestigieuses carrières tous sports confondus. Federer et Nadal se sont affrontés 40 fois pour un résultat de 24 victoires à 16 pour l'Espagnol. Les deux ont écrit le feuilleton le plus passionnant de l'histoire du tennis.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Après le retrait du Mali des instances du G5 Sahel, les quatre pays membres restants de cet organe régional dédié à la lutte contre le terrorisme ont défini la nouvelle configuration de la force conjointe du G5 Sahel. Une réunion a regroupé à cet effet ce jeudi à Niamey les ministres en charge de la défense du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad, nous dit notre correspondant Abdelrazak Idrissa.
Du fait de la sensibilité de la question, les nouvelles orientations de la force conjointe du G5 Sahel adoptées à Niamey par les quatre pays restants de cet organe dédié à la lutte contre le terrorisme ne sont pas rendues publiques. Daoud Yahya Brahim, ministre délégué à la présidence du Conseil militaire de transition du Tchad en charge de la défense nationale.
Nous avons réactivé nos moyens. Nous allons changer la stratégie militaire que je ne vais pas vous le dévoiler, mais la lutte continue et le G5 est fondé. Nous continuons la lutte et nous sommes soudés et nous n'avons jamais lâché le Mali. Nous demanderons toujours à nos frères maliens de regagner le G5 Sahel parce que l'ennemi est commun et le G5 Sahel est créé même par rapport au terrorisme dans le Sahel et précisément au Mali. Que les chefs d'État, les chefs suprêmes des armées ont créé le G5 pour consolider leurs efforts afin de lutter contre ce fléau de terrorisme. Mais je vous rassure que le G5 Sahel continue à lutter.
La réunion de Niamey a aussi été l'occasion pour les ministres en charge de la défense des pays membres du G5 Sahel sur la lancinante question du manque de financement, raison principale de l'absence de résultats sur le terrain par cette force. Al-Kassoum Indatou, ministre de la Défense du Niger.
L'espoir placé à la force du G5 Sahel dans la lutte contre la menace terroriste et ses activités connexes n'a malheureusement pas pu être concrétisé. Le projet, aussi ambitieux soit-il, n'a pas bénéficié de l'accompagnement de la communauté internationale et par faute des moyens, la force conjointe G5 Sahel n'a jamais pu atteindre sa pleine capacité opérationnelle car les promesses de financement annoncées n'ont jamais vu le jour. Au-delà de ces difficultés conjoncturelles que rencontre notre institution dans sa mobilisation des ressources financières à sa pleine opérationnalisation, se pose le problème de sa cohésion et de son unité d'action qui est quelque peu mise à mal.
Des trois fuseaux de la force conjointe du G5 Sahel, c'est celui du centre situé dans la zone des trois frontières entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso qui semble être la plus fragile et c'est là qu'un membre, le Mali en l'occurrence, s'est retiré. La nouvelle reconfiguration décidée à cette réunion de Niamey changera-t-elle la donne? La question reste posée. Les quatre États membres restants ayant encore réitéré leur appel au Mali pour regagner l'organisation pour une lutte efficace contre le terrorisme. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Sénégal, l'ancienne première ministre Aminata Touré, dite Mimi, a durement attaqué le président Macky Sall en l'accusant de favoriser sa famille dans la gestion du pays. La brouille fait suite à la mise à l'écart de Mme Touré de la présidence de l'Assemblée nationale, mais aussi du nouveau gouvernement nommé le week-end passé. Une situation qui a relancé le débat sur le choix familial au détriment du mérite. Notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Garder les hommes et les femmes qu'il faut à la place qu'il faut, ou bien on ne change pas une équipe qui gagne. Des maximes courantes, mais pour beaucoup de Sénégalais, elles ne sont pas appliquées ici. Mbaye Diène, étudiant en management, pense que le mérite a été aux abonnés absents dans les choix du président de la République.
Nous savons tous que cela ne doit pas marcher comme ça. Quand on est dans une république, on doit d'abord mettre le mérite avant toute chose. Donc, quand il s'agit des questions de népotisme, certes, on le voit dans d'autres pays en Afrique, mais cela ne doit pas être une règle. Ce qui est normal, c'est de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut.
Un raisonnement auquel Vieux Modou Ndiaye n'adhère pas. Pour ce commerçant, le chef de l'État peut bel et bien faire appel aux membres de sa famille si ceux-là ont les compétences nécessaires.
Je ne vois pas vraiment l'intérêt d'interdire le choix de la famille quand il s'agit de donner un poste. Du moment où la personne a la compétence de faire le travail, je crois même qu'elle mérite d'occuper le poste. Même s'il s'agit de votre fils, je ne vois pas le problème. Ce qu'on doit déplorer, c'est plutôt le fait de donner une tâche à quelqu'un qui n'est pas capable de le gérer.
Modou Diène, lui, n'en veut pas à Macky Sall pour ses choix. Ce mécanicien dit être habitué aux volte-face des hommes politiques.
Aminata Touré mérite ce qui lui est arrivé. D'ailleurs, je pense que cela ne devrait même pas être une surprise pour elle parce qu'elle connaît bien Macky Sall. Où sont les militants qui étaient avec lui depuis le début? Ils ne sont plus là. Aminata Touré n'en faisait pas partie. Elle a quitté une formation politique, en l'occurrence AJPADS, pour rejoindre Macky Sall. Donc, je pense qu'elle ne doit pas se plaindre car le nouveau président de l'Assemblée nationale a toujours soutenu le président Sall.
Pour rappel, après avoir dirigé la campagne lors des récentes législatives, Mimi était annoncé à la présidence de l'Assemblée nationale, mais a été évincé au dernier moment alors qu'elle venait de recevoir au sein même de l'hémicycle une ovation debout des militants de la coalition au pouvoir. C'est à l'intérieur de l'Assemblée qu'elle dit avoir reçu un appel présidentiel lui annonçant la nouvelle comme une douche froide. Auparavant, envoyé à la conquête de la mairie de Dakar, Aminata Touré, dite Mimi, avait perdu contre Khalifa Sall à la commune de Grand Yoff, ce qui lui avait coûté son poste de premier ministre. Malgré tout, elle était restée au front lors de la campagne pour la réélection du président Macky Sall en 2019. Par la suite, elle avait été récompensée avec la présidence du Conseil économique, social et environnemental, une autre sucrerie qui n'avait pas duré et avait également abouti à des relations heurtées avec le chef de l'État Macky Sall. Seydina Bagay à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, un don de matériel d'une valeur de 18 millions de francs CFA a été remis aux femmes du débarcadère de Lokodjo dans la commune d'Atékoubé à Abidjan pour renforcer leurs activités. Un reportage de Delphine Boise, notre correspondante à Abidjan.
La gestion du débarcadère de Lokotro est confiée à l'Association des coopératives des marailleuses et transformatrices des produits halieutiques d'Abidjan. Sur le site, en tenue de travail blouse bleu ciel, assortie d'un badge au cou, Jenny Deborah est vice-présidente de l'Association des marailleuses.
Nous avons départagé notre coopérative en 6 secteurs d'activité. Il y a le secteur des marailleuses et transformatrices. Il y a le secteur du gros pélagisme au thon et le secteur du petit pélagisme, les poissons aux écailles. Et il y a le secteur de la découpe. Il y a des jeunes gens aussi qui sont là pour faire la manutention. Ceux-là, on les a dénommés les chargeurs. Il y a des traiteurs de déchets de poissons.
Parlant de déchets dans un marché aux poissons, Dame Aké Viviane s'occupe de l'hygiène et de la sécurité. Une autre marailleuse, Maman Comté-Comté, au surnom si bien trouvé, fait le décompte au quotidien.
C'est nous ici, là, nous sommes au débarcadère. Mohamed, 6. On débarque nos poissons, c'est propre et plus ça avance. Les prix aussi sont abordables.
Et il n'y a pas que des femmes qui s'affairent à ce débarcadère. Sylvain, gilet orange, képi à la tête, brouette à la main, ce jeune Ivoirien de 27 ans est sollicité par tout le monde.
Il peut m'en sortir avec soit 12 000. Si ce jour-là, ça n'a pas marché, 8 000 francs. Moi, j'ai ma femme à la maison, j'ai mon enfant. Ça me permet de gérer tout ça. J'ai déjà payé la scolarité de mon enfant avec le travail des chargeurs.
Dans l'ambiance du marché aux poissons, une autre vendeuse essaie d'attirer les clients.
Ça, c'est le mérou, le vrai. Je ne vois pas où il y a pour gâter mon nom. Tati Johnny, viens, il y a du bon poisson, hein. 2 minutes, approchez pour voir les bons poissons ici.
Et tout le monde y trouve son compte.
Voilà, on voit le poisson exprès. Tu as la possibilité de faire ton choix.
Au secteur au fumage de poissons, l'exercice se fait avec beaucoup d'attention, selon Yvonne Adjoa.
On fait cela doucement, peut pas ça noircir. À cause des graisses là, ça monte là. Tout poisson là brûle.
Madame Justine Doudouyi est leur porte-parole et pose de nouvelles doléances.
Nous souhaiterions que plusieurs conteneurs de poissons soient mis à notre disposition. Que vous nous offrez un agrément de bateau d'une valeur de 200 millions de francs CFA.
La ministre de la Famille, Nassele Batouré, promet de transmettre à qui de droit.
Soyez rassurés que toutes les doléances seront traitées avec la plus grande attention et des solutions idoines seront proposées.
Le secteur halieutique ivoirien génère près de 100 000 emplois directs et plus de 580 000 emplois indirects, dont le tiers est détenu par des femmes. Delphine Abouise, Abidjan, VOA, Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h/24.
Les réfugiés burundais et congolais hébergés dans l'est du Rwanda se réjouissent de contribuer à la protection de l'environnement par le reboisement et l'utilisation du gaz pour la cuisson. Pour eux, cela a amélioré le bien-être d'environ 60 000 réfugiés vivant dans ce camp. De Kigali, les précisions de Jean Damasène Manishimwe.
Les tambourinés réfugiés burundais vivant au camp de Mahama à l'est du Rwanda, inhabitude à l'accueil des visiteurs selon la tradition de leur pays. Nous entrons dans le camp. Ce sont des maisons en tôle, alignées les unes derrière les autres. Les maisons sont séparées par de nombreux arbres qui sont plantés dans tout le camp. Il s'agit des arbres qui embellissent le camp et des arbres fruitiers. Si le camp est couvert d'arbres, cela n'était pas le cas quand les réfugiés y arrivaient pour la première fois en 2015.
Ce camp a beaucoup changé. En arrivant ici, cet endroit était comme un désert. Il y avait trop de soleil sans pluie. Le vent emportait les maisons, mais aujourd'hui, les arbres protègent le camp. Pendant la saison sèche, les gens trouvent des abris avec du bon vent. L'endroit nous est très agréable.
Nous avons planté des bambous dans cette zone tampon. Ils arrêtent l'eau et l'empêchent de se déverser dans les champs de la population. En luttant contre l'érosion, aussi nous avons protégé les maisons qui pouvaient être trouées, mais ils sont bien protégés grâce à ces arbres que nous avons plantés. Le directeur du camp des réfugiés de Mahama, André Vuganeza, indique que le reboisement du camp a réussi grâce à une intense sensibilisation des réfugiés, une opération qui se poursuit. La politique nationale de la protection de l'environnement met un accent sur la plantation des arbres. Nous avons mis en place cette politique et nous continuons. Nous avons des arbres, mais nous ne sommes pas là où nous souhaiterions être. Nous avons commencé par des arbres qui luttent contre l'érosion et le vent, et nous continuons avec des arbres fruitiers pour arriver à environ 400 000 arbres. Pour sauvegarder l'environnement, les réfugiés de Mahama ont renoncé à l'usage du bois pour la cuisson. Depuis plus de 3 ans déjà, ils se servaient du gaz qu'ils reçoivent gratuitement du Haut Commissariat des réfugiés, une fois ou deux par mois, selon la taille de la famille. Cette nouveauté, c'est la joie des réfugiés, en particulier les femmes, qui font souvent la cuisine.
Je fais préparer n'importe quand. Maintenant, tu vois qu'il a plu, mais je fais ma cuisine à l'intérieur de la maison sans problème. Mais dans le temps, avec le bois, on préparait à l'extérieur. Et quand il pleuvait, tout s'arrêtait. Mais pour le moment, tout se fait très rapidement, sans difficulté.
Le camp de Mahama, situé non loin de la frontière rwando-tanzanienne, est le plus large des 5 camps que compte le Rwanda. Il est habité par environ 60 000 réfugiés congolais et burundais, alors que le Rwanda héberge au total environ 120 000 réfugiés. Jean Damasène Manishimwe pour VOA Afrique, Kigali.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sidoudia, à la mise en onde de Michel Joseph, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA.